Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit Public, un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, l'ancienne ministre de la Culture Aurélie Filippetti, la journaliste Christine Ockrent, l'essayiste Philippe Manière et le directeur du think tank Terra Nova Thierry Pech. Au sommaire de ce dimanche 17 février, réforme de l'hôpital, ce qu'elle nous dit de la France, et conférence de Varsovie cette semaine sur le Moyen-Orient, quand l'Iran divise le monde. Pas de grand soir de la santé, un plan d'action et pour l'instant personne dans la rue. La réforme santé de la ministre médecin Agnès Buzyn, présentée cette semaine en Conseil des ministres, se disait de bon sens. Un nouveau mode de tarification à l'hôpital, remise en question du paiement à l'acte, pour viser plus la qualité que la quantité des soins. Un statut unique de praticien pour mettre fin à l'impossibilité d'être à la fois médecin de ville et médecin hospitalier. Favoriser le travail en réseau des médecins libéraux sur un territoire donné. Création d'hôpitaux d'un nouveau genre, dit de proximité, recentré sur les soins de base. Et une réforme radicale des études de santé avec la fin du fameux numerus clausus. Mesure de bon sens sur le papier, mais qui, chez les professionnels, soulevait malgré tout plusieurs questions. La faisabilité de ces mesures, la rapidité de leur mise en œuvre, les doutes sur les ordonnances qui devaient les préciser, le flou de certaines d'entre elles. Le flou face à l'urgence. Urgence en milieu rural, comme pour cette habitante de Saint-Claude dans le Haut-Jura, racontant cette semaine au Monde la fermeture de la maternité de sa ville au printemps dernier, qui déroutait les parturientes vers Oyonnax, à 40 minutes de Saint-Claude. L'angoisse depuis d'accoucher dans sa voiture, au point de pousser certaines à programmer leur grossesse pour que la période d'accouchement ne tombe pas pendant l'hiver, afin d'éviter les routes enneigées qui rallongeaient encore le temps de trajet. Urgence aussi dans les grands hôpitaux de Paris. Et le témoignage de praticiens héroïques et toujours passionnés comme cette neurologue de la Pitié-Salpêtrière, Sophie Crozier, responsable de l'unité des urgences cérébrovasculaires, qui racontait cette semaine dans la presse le manque de lits quotidiens pour des patients en urgence vitale, le manque chronique de personnel. Une infirmière s'en va, on attend 3 mois pour la remplacer. Pas de poule de réserve comme avant. Personnel médical enchaînant les heures sup, travaillant 12 heures de suite sans être certain de voir quelqu'un arriver pour prendre leur relève au bout des 12 heures. L'hôpital, cette parabole de la France, dont on disait qu'elle avait les services publics parmi les plus généreux du monde, mais qui semblait n'être jamais suffisant, jamais à la hauteur. Les usagers des territoires dénonçant l'abandon, ceux des villes, la déshumanisation.
En réalité, si les hôpitaux sont inhumains, c'est bien souvent, outre ces questions d'architecture, parce que le personnel médical et paramédical, les infirmières, tout le monde, sont en réalité des gens surmenés, des gens à qui on demande un travail qui est généralement écrasant pour le nombre qu'ils sont. Et alors, on le sait fort bien, car nul d'entre nous n'y échappe, à partir d'un certain degré de tension, il y a des choses auxquelles on n'a pas le temps de pourvoir, ou bien encore, il y a quelques mouvements d'humeur que l'on n'arrive pas à réfréner.
Aurélie Filippetti, vous savez de quand elle date cette archive sonore ?
Pas du tout.
Elle date de 1958, sur la chaîne de télévision unique de l'époque. C'était un débat dans l'émission d'Étienne Laloux qui s'appelait « Liberté de l'esprit » pour commenter une réforme des hôpitaux de province qui provoquait cette fois-ci la fronde des hôpitaux de ville s'estimant abandonnés. Comme quoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours ce caractère déceptif du service public hospitalier ?
D'abord parce que la France a raisonnablement de quoi être extrêmement fière d'abord de son système de santé. Et nous avons une très haute idée, à juste titre, de ce que notre société, ce qu'une société doit offrir à ses concitoyens en termes d'accès à la santé. Et moi, je veux dire ça avant toute chose, c'est-à-dire que nous avons la chance, et c'est pas seulement un truisme de dire la France elle a l'un des meilleurs systèmes de santé au monde. Je rappelle que ce système de santé, il est le fruit d'un certain nombre de mobilisations politiques et en particulier d'un consensus après-guerre entre, grosso modo, la droite et la gauche, tous ceux qui avaient participé à la résistance, qui ont fait le Conseil national de résistance et qui ont dit, dans les droits fondamentaux de nos concitoyens, on doit un accès à tous à un très bon système de santé. Ça, c'est un principe de base qui, malheureusement, n'est pas partagé partout dans le monde. Ensuite, ça coûte très cher. Effectivement. Mais paradoxalement, ce qu'il faut rappeler, c'est que notre système de santé français coûte beaucoup moins cher tout en étant bien meilleur et bien plus juste que, par exemple, le système de santé américain, qui est celui qui coûte aux États-Unis entre 15 et 17% du PIB américain, ce qui en fait le système le plus cher au monde et aussi le plus inégalitaire. Et on le sait malheureusement, malgré l'Obamacare qui a amené un certain nombre de progrès, ce système américain est très bon pour les très riches, mais très mauvais pour les très pauvres. Nous, on a un système plus juste. Maintenant, il demeure qu'il coûte cher, qu'il faut donc le financer. La réforme de la ministre Agnès Buzyn va plutôt, je trouve, moi, un certain nombre de choses extrêmement intéressantes, notamment sur les études de médecine et sur la répartition sur l'ensemble du territoire des établissements de santé. Parce qu'on parle des déserts médicaux, mais en fait, pour moi, le sujet le plus crucial, le plus difficile, c'est moins les déserts médicaux qu'au fond les inégalités qui se creusent dans l'accès à la santé, selon, en gros, qu'on appartient à des milieux plus favorisés qui ont plus l'accès à l'information aussi, ou pas. Et ça, c'est un problème qui petit à petit mine notre très beau système de santé. Donc c'est ça qu'il faut résoudre. Alors elle dit qu'elle veut créer un certain nombre d'hôpitaux de proximité, qu'elle veut supprimer le numerus clausus dans les études de médecine, ce qui est une très bonne chose. Bon, maintenant il faut laisser le temps à ces réformes effectivement d'abord d'être prises concrètement et puis évidemment de porter leurs fruits. Et ça va nécessiter des moyens de l'autre côté.
Sur le coût et sur les chiffres, je vous voyais froncer les sourcils, Philippe Manière, on va en rappeler rapidement certains. 200 milliards par an de dépenses de santé en France, je crois que ça correspond à peu près à 3000 euros par habitant. Ça classe la France parmi les pays de l'Union européenne où la dépense de santé est la plus élevée en part de PIB. Vous sembliez en désaccord avec...
Non, je suis principalement en accord avec ce que vient de dire Aurélie. Simplement sur le système américain, mais c'est pas notre sujet, c'est ce que vous avez dit est principalement vrai, marginalement faux. C'est-à-dire quand vous dites très bon pour les très riches et très mauvais pour les très pauvres, en fait, comme beaucoup de choses aux États-Unis, les très pauvres sont relativement bien protégés. C'est ceux qui sont juste au-dessus.
Oui, les classes
qui voilà. Bon, mais c'est pauvres, voilà, c'est un raffinement qui n'a pas beaucoup d'intérêt par rapport à notre conversation du jour. J'en conviens volontiers. Non, s'agissant de l'hôpital, c'est évidemment un sujet d'une immense complexité. Moi, je trouve qu'il faut mettre au crédit d'Agnès Buzyn d'être venue avec sous le coup d'une réforme qui n'a pas fait tout de suite hurler tout le monde. C'est assez remarquable. Au passage, moi, ça me rappelle un peu la méthode Blanquer. C'est-à-dire qu'on met dans ces ministères des gens qui connaissent le sujet. Alors, c'est pas toujours la preuve que ça va marcher. Il y a des gens qui connaissaient très bien l'éducation nationale qui n'y ont pas du tout réussi. Et symétriquement, on sait que, par exemple, Monory, qu'on a beaucoup moqué pour être un quasi-autodidacte, a été un excellent ministre des Finances, un excellent ministre de l'Éducation. Mais en l'occurrence, Blanquer pour l'éducation et Buzyn pour la santé me semble faire ce qu'on attend de gens qui ont quand même une vision du politique et des attentes de la société au-delà de leurs connaissances techniques, mais ont aussi une compétence technique qui est requise pour aborder des sujets d'une telle complexité. Alors pourquoi c'est complexe ? C'est complexe parce qu'évidemment, si on voulait résumer d'une manière caricaturale, ce qui permet toujours de faire des grandes envolées et d'avoir les applaudissements du public, on pourrait dire que c'est l'argent, l'horrible argent, la force de rappel monstrueuse de l'argent face à la santé qui n'a pas de prix. Et c'est une donnée du problème. Aucun d'entre nous ne souhaite que ni lui-même, ni ses proches, ni même les autres soient privés de soins, faute de moyens. Et en même temps, chacun sait bien que les moyens ne sont pas illimités, que si on attribue plus de moyens à l'infini, bah, au bout d'un moment, on obtient d'une part de la bureaucratie et de l'inefficacité, de la loi des rendements décroissants, et d'autre part, on a un problème de financement. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Donc il y a cette problématique-là. Il y a aussi la problématique très complexe que Buzyn, je trouve, a le grand mérite d'aborder, de l'articulation entre deux univers qui sont en fait un peu étrangers l'un à l'autre, qui sont la médecine de ville et la médecine hospitalière. Et puis, il y a l'écho de cette problématique à laquelle on a tous été évidemment très sensibilisés par les Gilets jaunes, mais qui préexistait, qui est la question territoriale. Alors, c'est une question, là encore, sur laquelle il faudrait passer un peu plus de temps, parce que on ne dit jamais tout. Par exemple, il y a beaucoup d'endroits où les hôpitaux publics sont marginaux ou ferment des services, parce que l'hôpital privé assure parfaitement le service. Je ne connais plus exactement le chiffre, mais je crois qu'il y a beaucoup d'endroits où ce qu'on appelle la MCO, c'est-à-dire la médecine chirurgie obstétrique de base, est assurée par le privé à hauteur de 70, 80, 90%. Ça marche très bien, c'est ni plus ni moins coûteux. Et d'ailleurs, souvent, les patients ne savent même pas qu'ils sont non pas dans un hôpital au sens établissement public, mais dans une clinique. D'ailleurs, beaucoup de ces établissements s'appellent hôpitaux. Beaucoup sont PSPH, c'est-à-dire qu'ils assurent un service d'urgence et ils sont complètement à la disposition des gens qui se présentent. Donc quand on dit c'est terrible un hôpital public ferme, on a souvent raison, pas toujours. De la même manière, vous preniez l'exemple de cette femme de Saint-Claude qui a peur de devoir aller accoucher à Oyonnax, je le comprends très bien. N'oubliez pas qu'à la fin du papier, on nous explique qu'on va tout de même garder un établissement de santé et qu'il y aura d'ailleurs un lit pour les parturientes qui auraient commencé le travail. Donc, il ne faut pas raconter aux enfants qu'on laisse les gens accoucher dans la neige. C'est faux. Ce qui est vrai, c'est qu'il y avait de toute éternité en France, parce que la démographie n'était pas la même qu'aujourd'hui, un maillage relativement dense qu'il n'est pas raisonnable de conserver aujourd'hui, à la fois pour des raisons financières et pour des raisons sanitaire. Une grande partie des services qu'on ferme, on les ferme parce qu'il y a du danger. Typiquement, je crois que l'hôpital de Saint-Claude, c'est 250 ou 300 accouchements par an. Je ne suis pas spécialiste, mais les spécialistes disent qu'en dessous d'un nombre qui est plutôt plus élevé, c'est assez dangereux. Je me rappelle avoir entendu parler d'une maternité qui faisait 150 ou 200 accouchements, si bien que faut juste regarder comment ça se passe. C'est-à-dire que quelqu'un qui est personnel de santé, il y a forcément des rotations. Dans un établissement où il y a 150 ou 200 naissances par an, on voit un bébé naître toutes les deux semaines, j'exagère, mais à peine. Alors que dans les plus grands hôpitaux de France, vous en avez 5 ou 6 ou 10 par jour. Ça n'est pas la même chose. Et donc, vous avez des capacités à équiper, à assurer la sécurité, qui ne sont pas les mêmes. Donc on ne fait pas ça uniquement pour l'argent. En même temps, il faut tenir compte de la psychologie, il faut tenir compte des besoins des gens qui se trouvent dans ces zones-là. C'est pour ça que c'est un sujet très complexe. Et encore une fois, c'est difficile de savoir ce qui va advenir de ce texte, mais ce qu'on sait du texte pour le moment et de la démarche d'Agnès Buzyn me paraît prendre en compte au mieux qu'il est concevable toute cette complexité avec des idées un peu de bon sens. C'est vraiment le côté j'aborde l'Orient compliqué avec des idées simples. Voilà, ce que je trouve plutôt bien.
Complexité notamment sur les enjeux territoriaux qui répondent parfaitement à cette inquiétude de l'époque. Thierry Pech, qu'est-ce que justement cette solution des hôpitaux de proximité, c'est-à-dire on va conserver des services publics présents dans des villes moyennes mais qui en même temps n'offriront plus les mêmes soins qu'il faudra aller chercher maintenant dans des hypercentres, qu'est-ce que ça dit de la période actuelle?
On est un peu dans cette nécessité, à vrai dire. Vous avez d'un côté des hôpitaux, disons de zones denses, qui sont absolument surchargés, dont les urgences voient l'engorgement quotidien du fait que la médecine libérale ne fournit plus la médecine de ville. Il faudra revenir et s'arrêter quand même sur le problème de la médecine libérale, hein, parce que c'est une singularité historique de notre système de santé qui pose une foule de questions et qui soulève beaucoup de difficultés. Donc vous avez d'un côté cet hôpital de ville surchargé, engorgé, et puis des hôpitaux de zones moins denses qui sont beaucoup moins engorgés, mais qui ont encore un plateau technique où on peut procéder à des opérations, des accouchements, etc. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de dire, au lieu de supprimer, au lieu de regarder la carte hospitalière en disant, il y a des endroits où on va supprimer des établissements, on dit, on va enlever le plateau technique. On va mettre ses moyens ailleurs dans des hôpitaux qui seront plus spécialisés, plus performants, mais on va laisser sur le territoire un service de santé de proximité. Bon, c'est ça l'idée.
Avec laboratoire de biologie, laboratoire centre d'imagerie, biologie, équipement de télémédecine,
soins de suite, gériatrie, on fait pas tout à fait n'importe quoi. Et bien sûr, la capacité à gérer les urgences, le tout venant. La femme qui est enceinte et qui est en travail et qui vient accoucher, elle sera accueillie. Mais vous aviez, et je rejoins sur ce point ce que disait Philippe, vous aviez des hôpitaux, je ne vais pas citer la localité en question, mais je vous donne cet exemple, il existe une maternité qui avait vu 4 accouchements il y a 2 ans. À l'époque, les gens du coin disaient c'est pas très sécur, il vaut mieux pas y aller. Dès lors qu'on dit on ferme, c'est la catastrophe parce qu'il y a une insécurité psychologique. Les gens se disent, mais on peut quand même en avoir besoin. On peut quand même en avoir besoin. Et ce « on peut quand même en avoir besoin » pourra être satisfait par l'hôpital de proximité. Donc ça, je trouve que c'est une bonne idée. Mais je voudrais revenir à la médecine de ville et au corporatisme libéral, qui me semble être un problème. Le président de la République a dit, il y a quelques mois, en annonçant ses réformes de la santé, la pratique isolée de la médecine va faire bientôt partie de nos souvenirs. Et je le souhaite. Et je le souhaite ardemment. Cette idée du colloque singulier sur lequel, et de la liberté d'installation sur laquelle repose la médecine libérale est à l'origine de beaucoup de problèmes. On a combiné des facteurs de catastrophe publique qui sont le numerus clausus, le malthusianisme démographique des professions de santé, et notamment des médecins, l'hégémonie de la médecine libérale sur le territoire, alors que les jeunes médecins ne cherchent plus ça, ils cherchent le salariat, parce que c'est des professions qui se sont féminisées, qui cherchent d'autres standards de travail. Bon. et un corporatisme libéral hallucinant, c'est-à-dire que on s'acharne sur l'hôpital pour faire baisser les dépenses publiques, mais les dépenses de santé de la médecine générale. Mais si, Philippe fait la moue.
Non, je fais pas la moue. En grande masse, les dépenses hospitalières sont sans comparaison.
Sans comparaison.
C'est ça que je veux dire. Mais c'est normal. L'hôpital, c'est le premier poste de dépenses.
C'est de très loin.
C'est 93 milliards, mais la médecine de ville, 53 milliards, et les médicaments, 15 milliards.
C'est automatique, c'est normal.
Je peux finir ?
Allez-y.
Bon. Ça, c'est tout à fait normal et c'est même trivial de constater ça. Le problème, c'est que la T2A, la tarification à l'acte, c'est 90% pour la médecine générale et 63% du financement de l'hôpital. C'est-à-dire, l'hôpital sait serrer la ceinture. L'hôpital, les réformes ont été faites et parfois de façon extrêmement douloureuse. En revanche, réguler la médecine générale de ville, on n'y arrive pas. Le corporatisme libéral fait qu'on n'y arrive pas. Et de fait, il faut faire attention parce que c'est une démographie qui est vieillissante. Il y a des médecins qui vont en masse partir à la retraite et laisser des patients dans la nature. Donc ils ont des arguments et un rapport de force dans la négociation qui est important. Mais il va falloir vraiment changer de système. Moi, je crois que la médecine libérale pose trop de problèmes pour qu'elle reste, je dirais, le modèle dominant d'organisation du service de santé.
Christine Ockrent.
Moi, je crois qu'il faut revenir à un contexte culturel qui est très, très français. On a, en vertu des réformes et des acquis qu'invoquait à juste titre Aurélie Filippetti, on a installé les Français dans l'idée qu'il y a un droit à la santé, ce qui est absurde. Étymologiquement, c'est absurde. On les a installés dans l'idée que c'est forcément gratuit. Autrement dit, vous allez à l'hôpital, par exemple, où que ce soit en France, mais singulièrement, comme le disait Thierry, dans les grandes conurbations, et vous n'avez aucune idée de ce que les soins qu'on vous apporte coûtent réellement à l'institution et donc à la collectivité. Et tout cela s'aggrave du fait de l'allongement de la durée de la vie, c'est-à-dire la prise en charge de maladies de plus en plus coûteuses et de plus en plus longtemps, avec l'hôpital et à commencer par les urgences qui deviennent effectivement le réceptacle de tout ce que la médecine de ville ne fait plus. Et la médecine de ville est en crise aussi parce que la génération de jeunes médecins, il y a non seulement la féminisation, comme le disait Thierry, il y a aussi le fait que ces jeunes médecins, on en connaît tous, ne veulent plus vivre à la cadence, au rythme de la génération d'avant. Il y a une vraie rupture. Et le fait d'avoir des cabinets collectifs, c'est très bien. Il y avait un reportage l'autre jour, je ne sais plus où, un jeune médecin qui expliquait, ben moi j'arrive à 9h, j'arrête à midi parce que je prends la pause de midi à 2h et je pars à 5h30 de l'après-midi.
Ce qui est vous voulez dire que c'est discours. La fin du modèle du médecin de famille qu'on pouvait appeler à toute heure qui visitait ses malades.
Il y en a toujours et ils sont admirables et on les aime et surtout qu'ils le demeurent. Mais il y a générationnellement un changement évident d'attitude. Donc, par rapport aux réformes annoncées par la ministre et qui semblent aller dans le bon sens, et surtout la suppression du numerus clausus et un autre dispositif très important qui est la reconnaissance des médecins étrangers, parce que ça, c'est une bagarre qui dure depuis 30 ans. On ne dit pas assez, simplement on le constate quand on va à l'hôpital, à quel point notre système repose énormément sur des médecins qui ont été formés en Roumanie, par exemple,
et
qui ont un parcours du combattant pour faire reconnaître l'équivalence des diplômes, etc., sans parler du personnel soignant, où c'est exactement le même problème.
Est-ce que vous avez le sentiment, Aurélie Filippetti, qu'en effet, avec cette réforme-là, que vous qualifiez tous de bon sens et semblant répondre à l'urgence, on va en effet répondre à cette urgence que, du coup, on a beaucoup lu et entendu cette semaine à la télévision ou dans les journaux. Est-ce que, par exemple, cette réforme, c'est une réponse à la nécessité qu'on ne cesse d'entendre depuis plusieurs semaines de faire revenir les services publics dans les territoires? Est-ce que ça met fin aussi à l'ensemble de ces freins spécifiquement français? Alors, il y en a un, par exemple, qui va être relevé, c'est-à-dire l'impossibilité très française de pouvoir être à la fois médecin de ville et médecin hospitalier. Ça n'était pas possible, ça n'était plus possible, ça va le redevenir. Est-ce que c'est au niveau de l'attente qu'il y a dans ces services publics-là et chez les usagers aujourd'hui?
Moi, je pense que d'abord, il y a une attente générale qui est une attente dans, là, je suis vraiment en désaccord profond avec Christine Ockrent, un droit à la santé. Et je pense que ça, c'est ce qu'on appelle le progrès humain. Et les Français attendent effectivement que la société pour laquelle ils sont prêts à payer des impôts, etc., ben leur donne ce droit à une santé de qualité.
Oui, mais ça tout dépend de ce qu'on appelle un droit. Le droit.
C'est alors, ça, aujourd'hui,
l'expression, moi, me fait tiquer.
Enfin, en tout cas, le problème, c'est que aujourd'hui, que vous, si vous êtes à Paris, dans une grande ville, dans une métropole, ou pas seulement dans les zones rurales, mais dans des petites villes, etc., mais vous n'êtes pas soigné de la même manière. Et l'erreur, c'est de considérer que, effectivement, il suffit qu'il y ait un établissement public de proximité pour que, au fond, ce droit à la santé soit assuré. Moi, je suis, là, pour le coup, en accord avec Philippe Manière là-dessus. Je pense que, notamment en ce qui concerne l'obstétrique, les maternités, on ne doit pas accepter qu'il y ait des établissements avec moins de 300 accouchements par an pour des questions de sécurité des femmes. Donc, ça, il faut faire passer ce discours. Mais en même temps, ça veut dire que les femmes ou les patients, quand ils vont dans un hôpital, peut-être un peu plus loin de chez eux, mais ils doivent avoir une qualité de soins qui leur soit assurée par des médecins bien formés et que ce soit équitable sur le territoire. Or, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, et moi je l'ai vu évidemment en Lorraine d'une manière cruciale, non seulement il y a un problème d'accès aux soins, mais il y a un problème d'inégalité de soins. Vous savez que si vous allez à l'hôpital juste à côté de chez vous, vous ne serez pas soigné de la même manière, vous n'aurez pas la même chance, le même pourcentage de guérison, etc., que dans un hôpital de pointe, dans une grande métropole. Et ça, c'est une injustice fondamentale. Aurélie, parce que je rappelle par ailleurs que les inégalités régionales en matière, par exemple, de maladies, si on prend la prévalence du cancer, par exemple, évidemment, dans les régions, par exemple, les Hauts-de-France, le Grand Est, la prévalence des cancers est beaucoup plus forte. Pourquoi ? Parce que ce sont des maladies qui ont beaucoup d'origine professionnelle. Or, justement, ce sont ces régions-là où on a les plus grandes disparités dans l'offre de soins. Et donc, il faut que la ministre de la Santé s'attaque à cette question de l'inégalité. Il y a des germes dans cette réforme, mais tout n'est pas traité. Et pour ça, évidemment, il faut aussi mettre des moyens et accepter de les mettre. Et je trouve que c'est une bonne chose, un bon projet de société, ça.
Thierry Pech, vous voulez réagir.
Je vais poser une question à Aurélie, parce que je voudrais être sûr d'avoir compris. Vous dites il faut que les maternités soient sécures. Pour ça, il faut qu'il y ait pas mal d'accouchements dans une maternité. C'est ce qu'a dit Philippe, et là-dessus, on est d'accord. Et en même temps, il faut que l'offre de soins soit égalitaire sur l'ensemble du territoire.
Non, égalitaire en qualité. C'est-à-dire la formation.
Je voudrais comprendre. Il faut faire les enfants là. Là où il y a des maternités, il faut mettre des maternités là où il y a des enfants.
Non, je dis simplement.
On n'enferme pas. Je comprends pas.
Moi, les maternités de moins de 300 accouchements, je pense qu'il faut les fermer.
D'accord.
Absolument. D'accord. Et quitte effectivement à ce qu'on développe d'autres systèmes quand on sait qu'il y a des grossesses qui ne sont pas spécialement un risque, etc. Pourquoi pas d'ailleurs des accouchements même à domicile, comme ça se fait par exemple aux Pays-Bas ou quoi, mais avec un vrai suivi par des médecins qui peuvent, eux, se déplacer. Mais par ailleurs, je pense que effectivement des maternités de moins de 300 accouchements, pour des raisons de sécurité, et il faut avoir le courage de le dire et de l'assumer. Mais moi, pour le coup, j'ai trop vu de manière même très proche la manière dont on est soigné différemment selon l'endroit où l'on va à l'hôpital pour ne pas dire à un moment donné non, il faut être certain de la qualité des soins qui va vous être proposés.
Est-ce qu'il y a adéquation, Thierry Pech, entre cette réforme Buzyn présentée cette semaine et ce qu'on a pu lire de l'autre, par exemple le témoignage de cette médecin parisienne, Sophie Crozier, qui raconte ce qu'on a raconté de nombreuses reprises, à savoir le manque de lits, le manque de personnel soignant, des infirmiers qui font 12 heures et qui ne sont même pas sûrs d'être relevés au bout de ces 12 heures. Est-ce qu'il y a adéquation ?
Mais oui, il y a adéquation, parce qu'une des raisons de la surcharge qui se porte aujourd'hui sur l'hôpital public, c'est la mauvaise performance de la médecine de ville. Du fait des déserts médicaux, du fait d'une démographie trop malthusienne, du fait du numerus clausus, du fait du retard historique qu'on a pris. On a besoin de beaucoup plus de médecins, et on a continué à les former comme des savants rares et chers. Pas chers par leurs tarifs, mais chers par leur formation. Bon, donc, il faut agir sur tous les leviers pour y arriver, c'est-à-dire agir, bien sûr, sur l'hôpital, où peut-être on crée pas assez de postes au lit du malade. Au lit du malade. Parce que des postes transversaux, des postes d'administration... Oui,
des postes de conformité...
Les postes sont en croissance. Hein, les fonctionnaires hospitaliers, le nombre de fonctionnaires hospitaliers est en croissance. Mais d'abord, le nombre de patients croît plus vite. Et donc, ils sont toujours, à la traîne du mouvement. Et d'autre part, c'est pas toujours des postes au lit du malade. Et ces personnels, les personnels des hôpitaux, des zones denses, sont fatigués. Ils sont épuisés. Il faut... Peut-être ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé, avoir circulé dans les hôpitaux, avoir eu cette occasion, pour le voir, mais de façon palpable. Les gens sont usés, ils sont épuisés. J'ai souvenir, juste évoquer ce souvenir, d'une femme à l'hôpital Cochin qui faisait l'accueil, le premier accueil. C'était une plateforme d'orientation absolument fantastique. Je pense qu'elle ne pouvait pas faire ce travail plus d'une heure et demie sans devoir faire une pause. Elle avait des responsabilités d'orientation extrêmement lourdes. Et elle n'était que la porte d'entrée. Et derrière, tout était à l'avenant. Donc, vous avez ce problème. Puis, vous avez un autre levier qui est la médecine de ville. Et c'est pour ça qu'il faut une médecine de ville plus organisée, plus collective, plus performante, pour qu'il y ait moins de gens qui viennent... ce qu'ils appellent ce que les urgentistes appellent la bobologie, qui n'a rien à faire là et qui vient engorger l'hôpital. Donc je crois que c'est... Alors cette réforme, elle répond une partie à ces difficultés et il est temps et c'est bien.
Ce que ce dossier de l'hôpital nous dit de la France, c'était la réflexion que je voulais vous proposer ce matin, parce que vous expliquez bien la différence qu'il y a sur cette question-là entre les grandes villes d'un côté et les problématiques des territoires de l'autre côté. Est-ce qu'on peut résumer les choses, Philippe Manière, en expliquant que dans les grandes villes et notamment Paris, le problème de l'hôpital, c'est la déshumanisation liée justement à l'afflux, au trop de monde venant dans ces établissements, et de l'autre, dans les territoires, ce sentiment d'abandon.
Oui, alors c'est un bon résumé, mais c'est aussi une approximation. C'est-à-dire qu'il y a aussi des problèmes de déshumanisation dans certains hôpitaux de province. Il y a aussi des afflux. Enfin, encore une fois, c'est un sujet d'une immense complexité qui se traduit par des choses choquantes, des manifestations choquantes et qui sont pas toujours compréhensibles. Alors, il faut pas oublier quand même. Je vais certainement pas me faire des amis en disant ça, mais tous les gens qui travaillent à l'hôpital savent que une des raisons fondamentales de la désorganisation de l'hôpital, c'était le passage aux 35 heures, qui a fini de tuer l'organisation des hôpitaux, qui a toujours été tendue, qui peut pas ne pas l'être, mais les 35 heures, et je connais beaucoup de gens, personnel hospitalier, qui le disent, les 35 heures ont donné l'ultime coup à l'organisation de l'hôpital. C'est devenu insensé. Je pense d'ailleurs pouvoir dire qu'il y a un certain nombre de gens qui ont une forme de nostalgie de l'époque où, effectivement, il n'y avait pas les avantages des 35 heures, mais il y avait une organisation qui était bien plus fluide, beaucoup moins tendue, grâce à un temps de travail qui était légèrement supérieur. Donc aujourd'hui, les gens travaillent un peu moins, mais travaillent dans des conditions de tension qui sont très dures. Sur l'articulation avec le privé, moi je ne suis pas suspect, je me souviens avoir écrit une vingtaine d'années qu'on parlait de médecine libérale par antiphrase, au sens où cette médecine libérale qui est financée par le public, elle est libérale comme moi je suis archevêque. En même temps...
Elle est plus libérale que vous n'êtes archevêque, Philippe.
C'est vous, c'est un peu bon, c'est d'accord. Mais il ne faut pas oublier qu'en 80-82, il y a eu une espèce d'hystérisation, d'opposition théâtralisée à l'extrême entre les deux. Vous vous souvenez, Jacques Ralite interdisant aux médecins d'avoir des consultations privées dans l'hôpital. En gros, il y avait le gentil hôpital et le méchant privé. Donc on était allé sans doute à ce moment-là assez loin pour des raisons idéologiques qui, Dieu soit loué, sont maintenant derrière nous. Moi, je suis très heureux qu'on essaye de retisser des liens entre les deux univers. Je suis bien conscient que la médecine libérale n'est pas irréprochable. Ça, là-dessus, je suis complètement en accord avec Thierry Pech. Faut pas non plus, je pense, prendre le risque de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire, autant moi, je pense qu'exercer la médecine tout seul dans son coin a des avantages et des inconvénients pour le médecin comme pour le patient. Et je suis très ouvert à l'idée que, ne serait-ce pour des raisons d'organisation et de qualité de vie des praticiens, mais aussi de sécurité des patients, on aille vers une médecine un peu groupée. Autant moi, je reste très attaché, et je comprends que les médecins le restent aussi, à l'idée du colloque singulier. Moi, l'idée que je puisse aller dans une espèce de centre de médecine où je ne sais pas quel médecin me recevra, je ne suis pas confortable avec ça. Faut pas critiquer la médecine libérale au point de lui faire perdre ses avantages. Un des avantages étant qu'il y a un lien particulier qui a des bénéfices du point de vue sanitaire entre le médecin et le patient. Donc, je crois qu'il faudrait pas tomber dans une espèce de supermarketisation de la médecine libérale, quelque critiquable qu'elle soit, à bien des égards. Enfin, derrière tout ça, il faut l'évoquer, on l'a évoqué en passant, mais je pense que c'est quand même une donnée fondamentale de la problématique, c'est la démographie. On parlait des territoires, Émilie, c'est important, on voit à ce moment-là, la démographie, c'est une des raisons fondamentales de tout un tas de phénomènes qu'on a vus, Dieu sait à quel point on les a vus récemment apparaître. C'est une raison aussi qui explique un certain nombre de choses qui ont eu lieu, qui sont très désagréables à vivre localement, mais encore une fois, il faut le dire, on ne peut pas avoir le même service public offert à une population qui a été divisée par deux ou par trois. Il y a beaucoup d'endroits de France où c'est passé comme ça au cours des 70 ou 80 années passées. Alors, donc il faut regarder cette réalité en face. On ne peut pas demander à avoir le même nombre de services publics, le même nombre d'hôpitaux, le même nombre de praticiens quand il y a deux fois moins de monde.
Alors sur l'attachement de Philippe Manière au colloque singulier avec son médecin libéral et sur ce que vous qualifiez de mercantilisation de l'autre côté, vous vouliez réagir Thierry Pêche?
Oui, je voudrais dire qu'un des problèmes de la médecine libérale, c'est la liberté d'installation.
Oui, ça je suis d'accord.
Et ça, là-dessus, je pense qu'on pourrait être d'accord. Oui, c'est-à-dire que c'est la médecine libérale, elle se privilège de pouvoir s'installer où elle veut, y compris là où il n'y a pas beaucoup de besoins et beaucoup d'offres. Le deuxième point, c'est que le colloque singulier, alors cette expression, elle est faussée. C'est pas simplement la relation personnelle qu'on peut avoir avec son médecin ou le choix du médecin. C'est aussi ce qui est derrière une idée de la division du travail médical qui est largement surannée. C'est cette idée que le médecin est une espèce de Dieu sur Terre dans le monde de la santé, qui ne pourrait pas partager son travail avec d'autres. Alors maintenant, il demande des assistants médicaux. C'est bon, on va créer 4000 postes d'assistants médicaux, ce qui est une très bonne chose, de gens qui vont faire des gestes relativement simples, mais importants dans les consultations, etc. Bon, ça, ils l'acceptent, même ils le demandent, mais c'est nouveau, parce que ils étaient les premiers à dire, ah non, le stéthoscope...
Mais surtout de la part des
infirmiers. Il faut avoir fait 10 ans d'études pour servir d'un stéthoscope.
Pour regagner du temps médical.
Faire un vaccin, mais ça, il n'y a que nous qui puissions faire un vaccin, et éventuellement à
Non, mais faut pas non plus trop rigoler. Le stéthoscope, il y a des cas où un médecin très exercé va dépister quelque chose que peut-être un personnel de santé moins expérimenté, moins formé, ne va pas dépister. Donc je crois qu'il faut pas trop non plus dauber là-dessus. Oui, que le secrétariat soit fait par quelqu'un qui n'a pas fait 15 années de formation, on peut le comprendre. Le stéthoscope, non, je finesse parce que faut pas tomber de l'autre côté du cheval. C'est ça que
on n'est pas en train de dire que les assistants médicaux vont se substituer aux médecins. On est en train de dire qu'il y a quelques gestes, pas forcément dans les cas les plus graves, mais dans les cas parfois les plus ordinaires, où des assistants médicaux qui auraient beaucoup de cliniques, beaucoup d'expérience, parce que ça se capitalise l'expérience, auront l'oreille aussi aiguisée que des médecins pour faire des diagnostics simples. Bon, souvenez-vous, les vaccins en pharmacie, lors d'épidémies de grippe. Bon, heureusement qu'il y a eu l'épidémie, parce que on aurait proposé ça en dehors de l'épidémie, on aurait dit les pharmaciens ne peuvent pas faire un vaccin, c'est absolument impossible. Mais il y a beaucoup de pharmaciens qui sont ravis d'avoir cette relation avec le patient, parce que c'est souvent eux le premier point de contact avec les gens, avec la vieille dame, etc. Donc c'est ça que je veux dire. Donc pour moi, il y a un problème de division du travail médical. Il faut donner plus de responsabilités aux infirmiers et infirmières mieux formés. Il faut donner des responsabilités aux assistants médicaux. Et il faut en finir avec cette idée qu'il y a une espèce d'homme orchestre seul au milieu du monde qui
de grand
devrait
Manitou, qui s'appelle le médecin libéral. Conclusion sur cette première partie, Christine Ockrent et puis Aurélie Filippetti.
Mais il faut souhaiter que le débat parlementaire qui va s'enclencher ne soit pas un festival de démagogie, comme c'est souvent le cas sur ce genre de sujet, parce que je reviens sur une expression qui a choqué Aurélie. Je crois qu'il y a d'un côté le droit aux soins, qui est essentiel dans notre système, qui doit être égalitaire dans la mesure du possible avec les disparités régionales et territoriales que vous soulignez à juste titre. Mais le droit à la santé, c'est toujours une expression, moi, qui m'a choquée, parce que c'est l'idée que tout le monde doit être en bonne santé de façon égale. Et hélas, ce n'est pas le cas. Et je crois qu'il faut insister sur cette nécessité d'expliquer à des générations de Français qui, grâce à un système incomparable, qui certes perd de sa productivité par rapport à l'augmentation des dépenses, des augmentations des dépenses liées encore une fois à la démographie et au vieillissement de la population, il faut espérer que ce soit un temps d'explication sur des problèmes d'une évidemment
très grande complexité. Alors Aurélie Filippetti.
Pour dire, il faut accepter
et même revendiqué le fait que la France consacre une partie importante de sa richesse à son système de santé et pour le bien-être de l'ensemble de la population. Et ça veut dire aussi moins de pression sur les personnels hospitaliers avec toutes ces tâches bureaucratiques qui les étouffent totalement aujourd'hui et qui n'obéissent qu'à la seule logique au fond de la rentabilité. Donc la fin de la tarification à l'acte par exemple, évidemment ça serait formidable, j'espère que Agnès Buzyn va le réussir. Mais on n'a peut-être pas dit assez, on n'a pas parlé assez des études de santé. Et là, il faut dire que les jeunes étudiants aujourd'hui dans le système actuel sont soumis à un stress mais inouï à cause du numerus clausus. On les oblige à passer des épreuves uniquement qui reposent sur des QCM.
Donc la fin de l'enfer de la première année.
C'est l'enfer de la première année où aujourd'hui, concrètement, quasiment aucun étudiant ne pense pouvoir passer en deuxième année du premier coup, et sans avoir recours à des prépas privés extrêmement chers, plus de 6000 euros, qui maintenant deviennent un passage obligé. Donc il est temps de vraiment refonder totalement ce système de la première année de médecine qui produisait énormément de souffrances chez les étudiants et qui était très inefficace. Mais sinon, peut-être un dernier mot quand même pour qu'on tire tous collectivement un chapeau, notre chapeau à tous les personnels médicaux et paramédicaux. Absolument. Quand même dans notre pays. Absolument. Et en particulier à l'hôpital public.
Et c'est vrai que la réforme de la première année de médecine laissera du temps aux étudiants pour écouter l'esprit public, donc c'est plutôt...
C'est une bonne manière de voir les choses en effet. Merci. Quittons la politique pour la géopolitique. On va maintenant se rendre à Varsovie en Pologne et à Sochi en Russie. Cette semaine, ça ne vous a pas échappé, deux sommets concurrents pour parler du Moyen-Orient.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Officiellement, la conférence de Varsovie avait pour titre « Conférence ministérielle pour la promotion de la paix et de la sécurité au Moyen-Orient ». Sauf que personne n'était dupe, le sujet principal de ce sommet, c'était bien l'Iran. L'Iran et la ligne dure adoptée par Washington contre Téhéran, retrait de l'accord sur le nucléaire et sanctions économiques touchant les Iraniens, mais aussi ceux qui entendaient continuer de commercer avec eux. Les États-Unis et la Pologne avaient organisé ensemble cette séquence diplomatique, le gouvernement ultraconservateur de Varsovie rêvant d'une base américaine sur le sol polonais pour se rendre moins vulnérable à une Russie voisine qui l'inquiétait particulièrement depuis l'annexion de la Crimée en 2014. La Russie, qui avait refusé de participer à cette conférence sur le Moyen-Orient, mais avait organisé son propre événement diplomatique à Sochi au même moment, avec justement le président iranien Hassan Rouhani et le turc Recep Tayyip Erdogan pour un sommet consacré spécifiquement à la Syrie. Varsovie avait pu compter malgré tout sur une soixantaine de pays présents, avec notamment les ministres des pays suivants: Arabie Saoudite, Bahreïn, Yémen, Jordanie, Koweït, Maroc, Oman, Émirats, Égypte, Tunisie et Israël. Mais il y avait eu une absence remarquée au grand sommet américano-polonais de Varsovie, l'Union européenne. La représentante des affaires étrangères de l'Union, Federica Mogherini, ayant fait savoir qu'elle était déjà prise par le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Ni la France ni l'Allemagne n'avaient envoyé non plus à Varsovie de ministres, mais de simples hauts fonctionnaires. En revanche, s'était rendu en Pologne le ministre des Affaires étrangères britannique. Une nouvelle fois, le Moyen-Orient était donc l'épicentre du monde, cristallisant les tensions, redessinant les alliances, un nouveau jeu géopolitique dont on n'était pas sûr encore de bien comprendre toutes les règles.
Je veux remercier le secrétaire d'État, Mike Pompeo, le vice-président Mike Pence et l'administration Trump d'avoir organisé cette conférence extraordinaire. Hier, s'est tenu un tournant historique dans une seule salle, en présence de près de 60 ministres, représentant plusieurs dizaines de gouvernements, un premier ministre israélien et des ministres des principaux pays arabes étaient côte à côte. Ils ont parlé sur un ton particulièrement fort, avec clarté et unité, contre le danger du régime iranien.
Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Jawad Zarif, condamne cette conférence.
La conférence de Varsovie, je pense, est morte-née. Il s'agit d'une nouvelle tentative des États-Unis pour continuer avec leur obsession de l'Iran, qui est infondée.
Voilà, on vient d'entendre Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui s'exprimait donc à la conférence de Varsovie jeudi, et le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Jawad Zarif, qui lui s'exprimait mercredi de Téhéran. Christine Ockrent, Varsovie, Sochi, deux sommets concurrents pour parler Iran et Moyen-Orient, et au fond, la confirmation que le monde se réorganise avec ce nouveau jeu d'alliance inédit.
Certes, mais ce n'est pas nouveau, et c'est bien évidemment la guerre en Syrie dont on marque de ces jours-ci douloureusement le 8e anniversaire. C'est cette guerre en Syrie qui a absolument bousculé
tous les équilibres.
Tous les déséquilibres plutôt. Mais il faut quand même revenir sur Varsovie, parce que dès le départ, l'administration américaine voulait véritablement que ce soit un sommet anti-Iran. Et uniquement l'Iran. Il n'était pas question de parler de la sécurité au Moyen-Orient, etc. C'est devant le refus des Européens, à l'exception du Britannique, comme vous l'avez dit, d'être représenté au niveau ministériel, que M. Pompeo, le secrétaire d'État américain, a dilué l'objectif de cette conférence en disant la sécurité au Moyen-Orient, etc. Il en a d'ailleurs profité pour accuser les Européens, en gros, de trahir l'alliance transatlantique en ayant mis en place ce mécanisme qui est plus un geste politique que véritablement un système efficace économiquement, mais les Européens qui tiennent à ce traité nucléaire avec l'Iran ont mis en place un espèce de système de troc pour permettre en tout cas à des entreprises de taille moyenne d'échapper aux sanctions américaines et aux transactions en dollars en s'efforçant de commercer avec l'Iran qui, comme vous le savez, fait l'objet de sanctions américaines. Donc, les États-Unis ont été obligés ces derniers jours de réduire l'ambition anti-iranienne de ce sommet. Et en fait, ça a été surtout l'occasion pour les Polonais, effectivement, d'obtenir qu'il y ait de nouveaux contrats d'armement signés avec Washington. Ils n'ont pas obtenu une nouvelle base américaine.
Pas mais encore. Mais un contrat d'achat de 20 lance-roquettes pour plus de 300 millions d'euros.
Mais donc, ça signifie, au sein de l'Alliance Atlantique, là aussi, la confirmation de tensions entre l'Est de l'Europe, évidemment plus sensible pour des raisons historiques et géographiques évidentes à la menace russe. Quant à ce qui se passe à Sotchi, c'est la répétition de ce qui s'est passé à Astana, où il y avait eu d'autres sommets
avec la même
avec le même triangle, qui n'est d'ailleurs pas simple non plus à gérer, mais dont Vladimir Poutine est évidemment le maître des horloges.
Ce que l'on a vu au fond ces derniers jours, Philippe Manière, c'est la fin de l'alliance transatlantique précisément, ou du transatlantisme ?
Non, je pense que c'est pas exactement ça. On voit bien qu'il y a deux manières de voir le monde au sein de l'alliance atlantique. On savait déjà que les Américains n'étaient plus ce qu'ils étaient auparavant depuis l'an dernier. On avait parlé dans l'esprit public depuis les tensions qu'il y avait eu juste avant le sommet de l'OTAN. Donc tout ça n'est pas complètement nouveau. La vérité, c'est que le conflit moyen-oriental est d'une très grande complexité. Sinon, quelqu'un aurait réussi à le régler, ou en tout cas serait venu avec des idées vaguement applicables. Et que quand on dit qu'on va faire à Varsovie, sous la houlette américaine, mais avec seulement une partie des parties prenantes, justement, quelque chose qui essaye de trouver des pistes, on se berce d'illusions ou on raconte des gaudrioles. Bon, mais ça, tout le monde le sait. Alors, donc tout ça est cousu de fil blanc. Les deux, d'ailleurs, sont cousus de fil blanc. C'est-à-dire, aucun des deux sommets qui prétend avoir une vision globale ne peut sérieusement aboutir à quoi que ce soit, puisque précisément, il n'y a que la moitié des gens autour de la table, ou à peu près. Est-ce que, pour autant, l'ordre du jour du sommet de Varsovie était délirant ? Moi, je ne le crois pas. Ça n'est pas parce que les Américains sont un peu dingos, ça n'est pas parce que les Américains piétinent les Européens, ça n'est pas parce que les Américains font une obsession très clair sur l'Iran, que pour autant ce qu'ils disent de l'Iran est faux. Moi, je continue à penser qu'effectivement, le principal fauteur de troubles dans la zone, de très loin, c'est l'Iran.
Alors, on va d'ailleurs préciser qu'en début de semaine, lundi, l'Iran avait menacé de détruire les villes israéliennes.
Exactement,
de Tel
ils
Aviv
font ça.
Voilà,
vous me l'ôtez de la bouche. Je veux dire, quel est le pays dont les dirigeants depuis un certain nombre d'années, se lèvent le matin en disant à la radio ou à la télévision que dès qu'ils auront 5 minutes, ils détruiront un de leurs voisins, enfin voisin ou quasi-voisin. C'est l'Iran, il n'y en a pas d'autre pratiquement. Donc tout est très compliqué. Ce qui est vrai, c'est que si on veut avancer sur le conflit israélo-palestinien, sur la situation israélo-palestinienne, il faut évidemment élargir la focale. On peut pas dire c'est Israël face à la Palestine, c'est la fermentation complexe de toutes sortes de forces dans la zone. Bien sûr le conflit chiite-sunnite, etc. Enfin passez-moi cette trivialité. Mais donc si on veut faire avancer les choses, il faut regarder.
C'était pas l'objectif le conflit israélo-palestinien.
Je sais bien. Non mais moi je dis que ça me semble être un objectif légitime d'essayer de rendre cette zone du monde plus paisible et moins hystérique.
Sachant que les États Les États-Unis ont fait savoir à l'occasion de ce sommet de Varsovie qu'ils entendaient en effet reprendre la main sur le règlement du conflit israélo-palestinien.
Et là-dessus, encore une fois,
je suis loin
d'être un fan de Trump et de sa diplomatie, mais il me semble que quand ils disent qu'il n'y a pas de solution au conflit israélo-palestinien sans regarder un peu ailleurs, ils ont raison. Et que quand ils disent que l'Iran est un fauteur de troubles majeurs, c'est à mes yeux absolument incontestable. L'Iran n'est pas le seul, mais il en est un et il est à mes yeux le principal. Donc, encore une fois, tout ça n'a pas grand intérêt. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de temps en temps, y compris dites par des gens modérément bien intentionnés et modérément aimables, des vérités.
Un mot, Thierry Pech, avec vous sur la voie européenne choisie en tout cas par Federica Mogherini, c'est-à-dire en charge de la politique étrangère de l'Union européenne et choisie par la France et l'Allemagne en n'envoyant pas à Varsovie leur ministre des Affaires étrangères, mais simplement de hauts fonctionnaires. L'Europe qui fait ce qu'elle peut, en tout cas cette frange de l'Europe, pour maintenir des liens avec l'Iran, des échanges commerciaux, avec la mise en place d'un système de troc qui s'appelle Instex. Le principe, c'est qu'un exportateur iranien qui vient en Europe est payé par un importateur iranien qui importe depuis l'Europe et inversement, ce qui permet d'éviter les sanctions financières. Elle a raison, ils ont raison.
Sanctions financières américaines liées à l'utilisation de la monnaie américaine.
Ils ont raison, les Européens, de tenter cette voie-là.
Ah oui, je crois, oui. D'abord, je pense que les Européens sont cernés de puissance dingo, pour reprendre le terme de Philippe. L'Amérique, on ne comprend pas bien ce qu'elle cherche. Un coup, elle va vendre sa proximité de sécurité à la Pologne, comme si le parapluie atlantique reprenait sens à ses yeux, après avoir dit qu'il fallait casser l'OTAN, que ça ne servait à rien. Cette entrée en bataille contre l'accord nucléaire iranien a été perçue d'abord comme une stratégie supplémentaire de Trump pour casser le multilatéralisme et les accords qu'il caractérisait. Et puis, finalement, on se demande s'il n'y a pas un autre agenda. Bon. Donc, d'un côté, les Russes, de l'autre, qui sont loin d'être une puissance amicale, même si eux ont une stratégie beaucoup plus claire, beaucoup plus cohérente. Ce qui se passe à Sotchi est beaucoup plus simple à décrire que ce qui se passe à Varsovie. Et donc, les Européens, dans tout ça, essayent de continuer à parler avec tout le monde. Ça n'est pas une position déraisonnable. Et l'affaire du troc, qui probablement aura des applications très limitées, est juste une façon de dire aux Américains, vous n'êtes pas souverain sur la planète entière quant à nos échanges commerciaux. Et ça me paraît le minimum que l'Europe puisse faire. Enfin, le problème européen, c'est que les Européens sont profondément divisés dans cette affaire. Je trouve que la question polonaise mérite d'être un petit peu développée dans tout ça, parce que aux yeux de la Pologne, l'enjeu, c'est quoi? C'est l'insécurité liée à la proximité du voisin russe, qui est une insécurité éventuellement militaire. L'histoire a malheureusement montré bien des fois qu'elle pouvait s'illustrer. Et c'est une insécurité énergétique aussi, puisqu'il y a une forte dépendance polonaise au gaz. Un des problèmes des Polonais, c'est Nord Stream 2. C'est le gazoduc qui passe par la Baltique pour aller servir le gaz russe en Allemagne. L'Allemagne est le cœur de l'Europe. Bon, et l'Allemagne a des ambiguïtés dans ses relations avec la Russie qui sont coûteuses du point de vue diplomatique. L'Allemagne, pardonnez-moi de le dire, j'ai beaucoup d'amitié pour les Allemands et j'espère que vous n'en douterez pas.
Mais ça précède toujours une vacherie.
Oui, c'est pas une vacherie.
On préfère qu'il y ait deux Allemagnes.
Non, pas du tout, Christine. Ah non, vraiment pas. Je préfère qu'il y en ait une seule. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec ça.
Mais
le mercantilisme ne fait pas une diplomatie. Voilà. Quand, avant de vous demander si on va taxer les GAFA, vous dites « Ah oui, mais on risque d'avoir des représailles sur nos Mercedes en Allemagne, aux États-Unis ». Avant de vous demander ce que vous dites sur la Crimée ou l'Ukraine, vous dites « Ah oui, mais il y a Nord Stream 2 et le gaz russe, on en a besoin ». Bon, à un moment, ça suffit. Le monde n'est pas tissé que d'affaires commerciales. Et donc les ambiguïtés de l'Europe, elles viennent aussi de ce genre de considérations, et les Polonais peuvent légitimement se sentir en insécurité avec des voisins européens si peu attentifs à leurs besoins et aux risques qu'ils encourent. Et donc, vous savez, Hollande avait émis une idée qui ne me paraît pas sotte sur le gaz. Il avait dit, pourquoi on ne ferait pas une centrale d'achat européenne du gaz pour protéger nos partenaires polonais ? On est une telle puissance d'achat qu'on a un rapport de force dans la négociation sur les prix qui permettrait aux Polonais de profiter. Bon.
Peut-être sur la Pologne, un mot de précision pour aller dans le sens de Thierry Page, pour surtout expliquer ce qu'est ce régime-là aussi. Christine Ockrent, dans son rapport à l'Europe, la Pologne actuelle n'est pas très européenne. Elle a elle-même été frappée par l'article 7, comme la Hongrie de Viktor Orban.
Non, les Polonais sont très européens et mais sont les premiers bénéficiaires d'ailleurs des subventions européennes. Mais
le régime polonais actuel ne se retourne pas vraiment vers l'Union européenne comme recours possible dans sa sécurité.
Le parti au pouvoir, et notamment sur le plan judiciaire, a contrevenu de façon grave, et d'ailleurs souligné comme tel par le Conseil européen, au précepte communautaire. Néanmoins, il est un fait que la question de l'énergie est centrale. Il y a néanmoins un accord qui vient d'être conclu entre Paris et Berlin, semble-t-il, sur Nord Stream, qui est donc ce projet de gazoduc.
Très frileux côté français. Hein.
Très frileux côté français, parce que, encore une fois, les tensions commerciales au sein même de l'Union européenne, et singulièrement dans le dialogue Paris-Berlin, sont réels. Mais moi, je voudrais revenir, Émilie, sur un autre aspect qui, je crois, est très important, qui est la présence du Premier ministre israélien, qui, il ne faut pas oublier non plus, est en pleine campagne électorale, et sa présence dans une réunion où il y avait, par définition, une majorité de représentants arabes sunnites, à commencer par le ministre saoudien, est tout à fait important au moment où le roi Salman d'Arabie Saoudite prenait grand soin de recevoir à Riyad Mahmoud Abbas, donc le président de l'autorité palestinienne. Et ça, c'est le jeu de balancier de la monarchie saoudienne, où d'un côté, Jared Kushner, j'ai toujours un certain mal à prononcer ce nom de famille, qui est donc le gendre de Donald Trump, est à Varsovie. Il n'a toujours pas sorti de sa manche le fameux plan de paix israélo-palestinien, pour reprendre la préoccupation de Philippe Manière.
Qu'il est censé préparer depuis de longs mois.
Qu'il prépare depuis 2 ans maintenant avec son copain, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Kushner n'a pas dit grand-chose, mais il est intéressant de souligner que, de façon évidemment symbolique, Riyad reçoit le président de l'autorité palestinienne, avec toujours ce souci de dire aux pays arabes, à la Ligue arabe, la cause palestinienne reste la première, ce qui est une immense hypocrisie. Parce que, hélas, l'autorité palestinienne est dans un état totalement vermoulu, la corruption est endémique, l'histoire de Gaza, etc., etc. Donc, cette idée que Washington serait le grand ordonnateur d'un système moyen-oriental revu, c'est un miroir aux illusions complet. Washington, en fait, a perdu la main dans cette partie du monde, même si son alliance avec Riyad, qui est maintenant contestée par la majorité démocrate à la Chambre des représentants à Washington, laquelle Chambre des représentants vient de voter l'interdiction de vendre des armes à l'Arabie Saoudite pour le Yémen. Donc, voilà, je voudrais pas avoir l'air de rendre les choses encore plus confuses qu'elles ne sont.
Plus complète.
Mais l'idée que Washington est maître du jeu me semble fallacieux. Ça ne veut pas dire, et là je rejoins tout à fait Philippe, qu'il n'y ait pas évidemment des arguments, les premiers d'entre eux étant les cérémonies du 40e anniversaire de la révolution iranienne, marquées par un tir de missile d'armes balistiques longue portée, réussi, évidemment de nature à frapper Tel Aviv.
40e anniversaire de la révolution en Iran, c'était aussi cette semaine. D'ailleurs, les engins étaient présentés dans Téhéran avec leur rampe de lancement mobile et à chaque fois un panneau qui affichait leur portée. En effet, ça allait de 100 à plus de 2000 km, je crois. Philippe Magnard, vous voulez réagir ?
Oui, non, je ne veux pas lâchement profiter de l'absence d'Hubert Védrine à cette table aujourd'hui pour faire la réelle politique au petit pied, beaucoup, beaucoup moins bien qu'il le ferait. Mais je pense que sur les deux sujets qu'on vient d'aborder, abordés, qui sont le Moyen-Orient d'une part et l'Europe d'autre part. Je voudrais revenir brièvement sur l'Europe. Il faut tout de même regarder les choses en face. C'est-à-dire qu'on peut espérer que tout le monde va demain commencer à s'embrasser sur la bouche et courir nu avec une fleur dans la bouche, mais ça n'arrivera pas.
Mais qui dit ça ?
Mais personne ne le dit. Je n'ai pas dit que vous le disiez, Christine. Je dis juste que on a souvent l'impression.
Vous voilà rassurée. J'ai dit exactement l'inverse.
Je n'ai pas dit que vous n'aviez pas dit l'inverse. Mais non, je croyais entendre vous, Christine. Je dis simplement que il y a certainement des progrès qui sont faisables. Il y en a qui ne sont pas accessibles, en tout cas pas à court terme. Quand vous avez dans une zone comme le Moyen-Orient des puissances comme l'Iran qui sont à la fois du point de vue du régime dans une très grande difficulté et du point de vue de l'idéologie dans une très grande agressivité, il y a assez peu de chances que tout le monde se mette autour d'une table pour parler entre gens de bonne compagnie. Et pour revenir à l'Europe, quand vous disiez, Émilie, avec, je ne veux pas vous parler de naïveté s'agissant de vous, mais avec une ouverture d'esprit qui vous honore, que c'était fâcheux que la Pologne ne se retourne pas vers l'Union européenne pour assurer sa sécurité. Elle a bien raison de ne pas compter sur l'Union européenne pour assurer sa sécurité. L'Union européenne ne peut pas assurer la sécurité de la Pologne.
C'est pas son objectif.
Mais bien sûr, ça n'est ni son objectif, ni dans ses capacités, ni même un jour, il est imaginable que ce sera dans ses capacités. Donc, évidemment, si vous êtes polonais, vous avez peur.
Juste pour préciser les choses, au fait que Varsovie acceptait de recevoir un sommet auquel ne s'associait pas Federica Mogherini, c'est-à-dire celle en charge de la sécurité européenne.
C'est elle qui a décidé de ne pas venir, ce que je peux comprendre, mais c'est pas les Polonais qui l'ont prié de rester chez elle. Donc, si vous voulez, ils sont membres de l'Union européenne, qui est principalement une union économique, avec une vision un peu au-delà de l'économie, principalement une union économique, pour leur sécurité. Évidemment, ils comptent sur leur autre alliance, qui est l'OTAN, qui est le seul pays qui peut assurer la sécurité matériel, physique, l'intégrité territoriale de la Pologne, à condition qu'ils le veuillent bien. C'est une autre question, hein. Mais ce sont les États-Unis d'Amérique, à l'évidence.
Aurélie Philippe, je trouve que Philippe Manière a une position un peu irénique sur les États-Unis et la Pologne.
Vous voulez dire qu'il marche nu avec
une
fleur dans la bouche ?
Oui, il marche nu, voilà, exactement. Il marche nu, en fait, de Washington à Varsovie.
Je viens de dire moi-même que ce n'était pas sûr qu'il le fasse. J'ai simplement dit que si quelqu'un pouvait le faire, c'était les États-Unis. Personne en Europe ne va défendre la Pologne. Mourir pour Danzig, j'allais dire.
Mais il n'y a pas que la Pologne, d'ailleurs.
Je suis désolée.
Non, mais puisqu'on parle de la Pologne et que vous disiez que le sommet s'expliquait comme ça.
Si on parle des forces qui menacent l'équilibre du monde, bien sûr, il y a l'Iran, mais enfin, il y en a beaucoup d'autres.
Évidemment.
Excusez-moi. Et la politique de Donald Trump n'est pas la moindre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que malheureusement, on a d'un côté, effectivement, des régimes autocratiques, autoritaires, qui se sont réunis là, à Sochi, entre autres, hein, parce qu'il y en a d'autres ailleurs dans le monde, malheureusement, mais on a aussi
une belle concentration.
On a aussi des ultra conservateurs réactionnaires avec en tête Monsieur Trump, avec les Polonais, les Hongrois, les Slovaques, les Tchèques, ce qu'on appelle le groupe de Visegrad, qui se sont réunis là à Varsovie. Et heureusement, Federica Mogherini n'est pas allée donner la caution de la diplomatie européenne à ce qui. Alors, c'est pas une nouvelle guerre froide. Enfin, ça serait une guerre froide multipolaire, hein, pour paraphraser Hubert Védrine. Mais enfin, l'Europe, en tout cas les démocraties libérales qui constituent normalement, hein, l'esprit de la diplomatie européenne, doivent défendre une position qui soit non, une forme de troisième voie, d'équilibre. Moi, je regrette vraiment la sortie, l'échec de l'accord sur le nucléaire iranien, qui était en fait la plus importante avancée qu'on avait obtenue du temps de Barack Obama et qui a été malheureusement détruite par Donald Trump.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre. Philippe Manière, Aurélie Filippetti, Thierry Pech et Christine Ockrent. Je recommande le très bon dossier que le journal L'Express consacre cette semaine à comment Trump refait le monde. Pour aller dans votre sens, Aurélie Filippetti, avec notamment un portrait de John Bolton, ce conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche. À lire donc dans L'Express. Merci à Marine Beccarelli qui a préparé avec moi cette émission, à Luc Jean Reynaud qui l'a réalisée, à la technique aujourd'hui, Julien Doumanc. Tout de suite, Caroline Bouet dans Les Bonnes Choses ce dimanche. On boit du thé avec des spécialistes de la boisson délicieuse. Et puis Marc Weisman dans Signe des Temps reviendra sur la Ligue du LOL. Et nous, bien sûr, on se retrouve dimanche prochain, 11h. Bonne semaine à tous.